Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 26 mai 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C. aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Depuis le début de l'année 2023, pas moins de 4 personnalités américaines de haut rang se sont rendues en Afrique. À commencer par la vice-présidente Kamala Harris qui, en mars dernier, s'est rendue en Tanzanie, en Namibie et au Ghana où elle avait annoncé une initiative $1 milliard pour améliorer l'émancipation économique des femmes en Afrique. Bien avant la vice-présidente, c'est Jill Biden, la première dame des États-Unis, qui s'était rendu au Kenya et à Namibie avec un focus sur les femmes et les jeunes. Elle avait à l'occasion réitéré l'engagement des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Le voyage de Jill Biden intervenait à la suite du sommet sur l'Afrique tenu en décembre à Washington et durant lequel Joe Biden avait plaidé pour la création d'un vaste partenariat avec l'Afrique. Au moment où les États-Unis cherchent à affirmer leur présence sur le continent face aux investissements chinois et au renforcement de la présence russe. En janvier dernier, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est, elle, rendue au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud, où elle a vanté les mérites d'une nouvelle stratégie économique américaine mutuellement bénéfique. On signalera aussi les visites d'Anthony Blinken qui s'est notamment rendu cette année en Éthiopie et au Niger. Comment se portent les relations entre les États-Unis et l'Afrique et comment les renforcer? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essayons de répondre dans l'Amérique et vous ce soir avec nos invités. Et justement, comme invités ce soir, nous avons à Houston, au Texas, Raoul Kedi, il est membre du conseil d'administration du bureau du maire pour les opportunités d'affaires. Vous avez conduit ou initié plusieurs missions entre les entreprises africaines et des investisseurs américains. Vous êtes par ailleurs fondateur de Racket International. Raoul Kedi, bonsoir.
Bonsoir John, merci pour l'invitation.
Ravi de vous avoir parmi nous. Ici à Washington DC, Calvin Dark est analyste politique et cofondateur de RC Communications, une structure qui a ses locaux ici donc aux États-Unis et qui compte ouvrir un bureau à Rabat au Maroc d'ici la fin de cette année. Et vous êtes impliqué dans plusieurs projets en Afrique. Calvin Dark, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Merci pour l'invitation.
Soyez les bienvenus dans l'Amérique et vous. Et ici, dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Désiré Nzouzi. Vous êtes le fondateur de Networking, entre autres, hein, un mouvement qui organise chaque mois à Kinshasa, si je ne m'abuse, un rendez-vous professionnel qui met en contact opérateurs économiques, diplomates et acteurs divers. Henri Désiré, bonsoir.
Bonsoir, John.
Merci d'être avec nous. On va démarrer par vous, justement, Harry. Alors, networking, un joli jeu de mots. Qu'est-ce que c'est, ce concept?
Alors, c'est une émanation du JT diplomatique, qui est le premier rendez-vous audiovisuel congolais dédié aux acteurs de la vie internationale. Ce sont les représentants des gouvernements, des missions diplomatiques, du système onusien, du système international financier, des ONG, mais aussi de la diaspora, toutes ces personnes qui vivent en RDC, qui sont actifs et que nous essayons de faire interagir à travers ces différents rendez-vous au cours desquels ils peuvent nouer des contacts évidemment justement trouver des synergies, des identités de vue sur la manière la plus efficace d'accompagner la RDC sur la voie du développement. Donc, c'est donc un rendez-vous exclusif qui existe déjà au niveau de la Belgique, puisque je l'ai initié au départ en Belgique, mais dans une optique beaucoup plus, je dirais, associative et professionnelle. Mais dans le cas d'espèce ici, il s'agit véritablement de mettre en contact tous ces acteurs de la vie internationale qui sont actifs en RDC.
Alors, mettre en contact donc tous ces acteurs, Raoul Kedi, parlons justement de connexion. On le disait, vous êtes à la tête d'un cabinet d'affaires et vous êtes aussi membre du conseil d'administration du bureau du maire pour les opportunités d'affaires. Présentez-nous votre cabinet et parlez-nous un peu de votre rôle à la mairie de Houston.
Alors, merci John. Raoul Kedi, fondateur de Work International, c'est un cabinet qui fait dans le business développement entre les États-Unis et l'Afrique. On essaie de trouver des investisseurs au niveau des États-Unis pour les amener en Afrique. On essaie de faciliter les relations diplomatiques, politiques entre les deux États aussi. Et on organise des missions économiques entre l'Afrique et les États-Unis. On a, les dernières années, on a fait pour plusieurs, avec plusieurs délégations et chefs d'État. Et ma casquette dans le conseil économique du maire de Houston pour la ville, c'est d'essayer de faciliter les échanges économiques entre l'Afrique et la ville de Houston.
D'accord, on parlera de tout cela au cours de cette émission. Calvin Dark, vous êtes cofondateur de RC Communications. Vous envisagez d'ouvrir des bureaux, on le disait, au Maroc. Comment s'est passé votre contact avec l'Afrique dans le domaine des affaires? Et quelle est l'analyse que vous faites de manière générale des relations entre l'Afrique et les États-Unis aujourd'hui?
Oui, pour nous ici à RC Communications, notre objectif, c'est la communication. C'est-à-dire que je travaille avec des entités africaines, soit le gouvernement, le secteur privé, de faire passer leur message, de vraiment communiquer ce qui est en train de se passer en Afrique. Pourquoi? Parce que les preneurs de décision américains, même s'ils ont la volonté de élargir et fortifier les relations entre les États-Unis et les pays africains, ils ne connaissent pas exactement les enjeux ou ce qui se passe ou les progrès. Alors pour nous, l'objectif, c'est de vraiment donner de l'image. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les challenges, les défis? Quel est le progrès? Parce que malheureusement, ici à Washington, ce n'est pas toujours tout à fait clair. Au niveau général des relations entre l'Afrique et les États-Unis, je dirais qu'il y a une volonté politique qu'on a vue avec le sommet en décembre de président Biden. Mais ce qui manque, c'est de comment aller au-delà de ça. On prépare le terrain, mais le défi, c'est comment est-ce qu'on peut aller pour vraiment être à la place de prendre l'avantage de nos relations. On prépare, mais qu'est-ce qui suit?
Voilà, qu'est-ce qui suit? Et on l'a dit en début de cette émission, il y a comme un mouvement quand même de la part des autorités politiques ici aux États-Unis, avec des déplacements depuis le début de l'année des personnalités américaines sur le continent. Henri Désiré, lors de sa visite en Afrique, justement dans ce contexte-là, la vice-présidente Kamala Harris avait appelé à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique. Une Afrique qu'elle avait qualifiée d'avenir du monde. Mais seulement, Henri, on a l'impression que les Africains eux-mêmes ne croient pas au continent. Les jeunes fuient leur pays et les leaders ne pensent dans la majorité des cas qu'à s'accrocher au pouvoir sans vraiment faire ce qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des populations. Comment changer ce cours des choses?
Alors, deux choses, si vous le permettez. La première, c'est que pendant 8 ans, c'est-à-dire entre 2014 et 2022, on ne peut pas dire que les États-Unis étaient particulièrement intéressés par le continent. 2014 correspond d'ailleurs à l'époque où le président Obama avait rencontré ses pairs africains. Entre-temps, on a changé d'époque, puisqu'on a vu l'émergence sur le continent de nouveaux acteurs qui ont eu une approche beaucoup plus proactive vis-à-vis des gouvernements, mais qui ont tenu un discours pour lequel une certaine opinion publique s'est montrée réceptive, c'est-à-dire un discours sans conditionnalité, avec un certain respect pour les réalités du terrain, et une approche plutôt gagnant-gagnant. Cela n'a pas du tout modifié la perception que les jeunes, dans leur grande majorité, ont sur les perspectives d'avenir dans leur pays respectif, faute de politiques volontaristes de différents gouvernements qui peuvent leur donner un peu de perspective, bien évidemment. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait ce sentiment, cette volonté de vouloir sortir de ce train-train quotidien, de cette vicissitude pour aller voir ailleurs. Pour retenir ces jeunes qui sont désillusionnés, il n'y a pas 36 solutions. Il faut effectivement les retenir, il faut créer les conditions d'un épanouissement, mais surtout les conditions d'un développement interne qui puisse leur donner une vision sur le moyen, le court et le long terme. Et puis surtout, il faut des incitants. Il faut que les jeunes se sentent respectés et ne soient plus perçus comme des fauteurs de troubles comme une menace. Ce n'est pas toujours évident, et ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui ce sont les jeunes et certaines opinions publiques africaines qui est en pointe dans la contestation, pas seulement contre éventuellement les dérives auxquelles on peut assister au niveau de la gouvernance, mais c'est aussi par rapport à ceux qui veulent venir en Afrique et pour lesquels il y a un certain nombre de conditions à respecter. La première d'entre elles, évidemment, c'est de respecter les Africains dans leur diversité.
Alors, ce qui est surprenant, Henri, c'est que ces jeunes, lorsqu'ils quittent le pays, parfois ils brillent à l'extérieur. Raoul Kedi m'excusera, je sais qu'il est jeune, mais il se retrouve aujourd'hui au conseil d'administration d'une mairie comme celle de Houston. Je suis pas sûr que ça aurait été le cas à la communauté urbaine de Yaoundé ou de Douala. Raoul Kedi, parmi les problèmes auxquels les Africains, les jeunes notamment, font face, il y a, Henri le disait, le chômage, l'absence des soins de santé adéquats, des routes, de l'eau, mais aussi l'absence même d'électricité qui peut aider les jeunes dans leur activité. Qu'est-ce qui explique cela et que faire pour que le développement, Raoul, soit vraiment une réalité sur le continent?
Oui, John, déjà, je vais ajouter à ce que tu as dit. Je pense pas aussi que peut-être au Cameroun ou en Afrique en général, à mon âge, je suis pas assez jeune, mais je suis à moins de la quarantaine, je devais me retrouver dans ce conseil d'administration de la ville. Je pense pas que c'est des opportunités qu'on trouve autant en Afrique. Pour qu'il y ait vraiment de mouvement, je pense que notre système en Afrique, on doit avoir un système déjà d'abord décentralisé et un système basé sur le mérite. Certes, les relations, le coup de fil intervient partout, mais aussi il faudrait qu'il y ait l'opportunité pour tout le monde de montrer ses capacités. Ça, je pense que c'est un grand focus, c'est un grand blocus et qui amène beaucoup de jeunes à voyager aujourd'hui et se retrouver en Occident. Maintenant, pour qu'il y ait vraiment le développement, il faudrait aussi qu'il y ait une rigueur dans ce que nous faisons. En Afrique, ça veut dire s'il y a une société d'électricité, qu'on soit capable d'avoir une rigueur dans le travail. S'il y a de l'eau, d'avoir une rigueur dans le travail, s'il y a des policiers en route, de savoir que si tu ne respectes pas la loi, tu seras interpellé et tu vas payer des amendes ou bien tu auras une sanction. Mais si on sait que si je suis interpellé par la police, peut-être en conduisant à aller au-dessus de la limite en route, et qu'avec un billet de 1000 francs, je peux m'en sortir, je ne vais pas respecter la loi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que le système, pour que le système puisse changer, une certaine rigueur. Le travail, que chacun sait que quand il va au travail, c'est vraiment pour avancer. Et on pourra avoir beaucoup de choses en place qui vont nous aider à développer. Je ne pense pas que le développement viendra du dehors. Je ne pense pas que c'est l'Amérique qui va apporter le développement en Afrique. Je ne pense pas que c'est l'Europe qui va apporter le développement en Afrique. Je pense que les Africains, nous-mêmes, c'est nous qui allons apporter notre développement. Mais si ensemble, on essaye de travailler, de respecter, de s'y mettre, respecter les lois, avoir beaucoup de rigueur,
les choses peuvent changer. Et aujourd'hui, on retrouve même beaucoup qui ont fait l'Occident, qui veulent rentrer en Afrique pour apporter ce développement, leur contribution au développement. Mais malheureusement, qui arrivent sur place se heurtent à beaucoup de réalités du système.
Voilà.
Et du coup, on est obligé de rentrer chercher encore en Occident, de garder tout ce savoir. Le système aussi, parfois, ne permet pas aux gens de rapporter ce qu'ils ont appris en Afrique pour qu'on se développe.
En tout cas, merci pour cette contribution. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique. On revient juste après la pause.
L'Amérique et vous en direct de Washington.
L'Amérique et vous, nous parlons des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Calvin Dark, lors de son allocution à Windhoek, la capitale namibienne, Jill Biden a dit que les États-Unis s'engageaient à faire en sorte que les pays africains n'aient pas seulement des voix dans des organisations telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies et le G20, mais aussi que ses partenaires soient écoutés d'égal à égal. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte que l'Afrique ne soit pas pleinement intégrée dans les cercles des décisions mondiales? Le continent, par exemple, peine à avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et parfois les décisions qui concernent l'Afrique sont prises sans les Africains. Qu'est-ce qui explique cela?
Oui, je crois que, c'est une chose pour le gouvernement américain, par exemple, de dire nous voulons que les pays africains soient des alliés égaux des États-Unis, avec une voix au sein de l'ONU, par exemple. Mais c'est tout à fait autre chose de traiter et d'interagir avec les pays africains comme des véritables alliés égaux. C'est-à-dire, c'est difficile à imaginer pour nous parce que cela n'a jamais existé dans l'histoire des États-Unis. La plupart des preneurs de décisions américains ne pourraient pas même imaginer, par exemple, un président américain aux côtés d'un dirigeant africain où les deux pays sont sur un pied d'égalité parce qu'ils et tous les deux ont véritablement besoin l'un de l'autre. Alors, je crois que l'objectif de Joe Biden et l'objectif de l'administration Biden, c'est de vraiment préparer ce terrain pour que les pays africains puissent être les alliés égaux et aussi les pouvoirs au niveau international, parce que malheureusement, maintenant, les mots qui viennent à l'esprit pour les Américains, surtout les preneurs de décision, c'est l'aide ou la résolution de conflits ou l'instabilité, au manque d'infrastructures. Et ça, c'est pas bon pour l'avenir. Alors, je crois que ce qu'elle a dit, c'est vraiment d'initier ce changement de pensée, le changement de où se trouvent les pays africains au niveau international et aussi par rapport aux États-Unis.
Alors, Henri, on parle là de diplomatie, vous flirtez avec ce monde. Les visites d'État, par exemple, des chefs d'État africains à la Maison-Blanche, se compte au bout des doigts. Déjà, comment est-ce que tout cela fonctionne et qu'est-ce qui peut expliquer cette rareté, par exemple, des visites d'État, des présidents africains et américains? Est-ce le fait que l'Afrique, les États-Unis regardent l'Afrique ou les leaders africains de haut ou de bas, je ne sais pas. Qu'est-ce qui explique cela?
Alors, un des griefs qui est formulé régulièrement au continent africain, justement, c'est de courir vers des sommets où on a, par exemple, États-Unis, Afrique, Europe-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, où vous avez un seul interlocuteur avec, en face, 54 interlocuteurs. Il y a déjà un premier problème qui se pose à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'Afrique est déjà incapable de pouvoir parler d'une seule voix en se choisissant éventuellement un plénipotentiaire qui pourrait les représenter. Lors de la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, Macky Sall a plaidé pour l'entrée de l'Afrique au G20, justement, en tant que participant de plein droit. Pour revenir à votre question, je dirais très simplement qu'à l'heure actuelle, lorsque vous parlez du continent africain, il faut plutôt parler de pôles d'influence ou en tout cas de compétitivité qui sont représentés grosso modo par une demi-douzaine de pays qui réellement sont ceux qui font véritablement avancer le continent africain. Et parmi ces pays, vous en avez un notamment qui fait partie des BRICS, c'est l'Afrique du Sud, et qui offre aujourd'hui une alternative au modèle économique et financier auquel nous avons toujours été habitués depuis Bretton Woods en 1944. Et cette offre nouvelle a permis aux Africains aujourd'hui d'avoir le sentiment d'exister véritablement, même si sur le fond, il y a un certain nombre de progrès à faire. Ce que je voudrais également ajouter, c'est que la montée en puissance de puissances émergentes, qui contrarie d'une certaine manière les ambitions américaines, incite Washington à reprendre, je dirais, les choses en main pour que son précaré, on va dire ça comme ça, ne puisse pas se vider comme peau de chagrin, parce qu'aujourd'hui, vous avez un discours pour lequel les opinions publiques africaines et les gouvernements se montrent de plus en plus réceptifs, c'est celle d'un modèle économique alternatif, d'une vision de la société totalement différente, qui n'est plus fondée sur une relation de dominant à dominé, mais plutôt sur un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est à cette condition-là que vous avez des gouvernants et des opinions qui ont véritablement le sentiment de se faire respecter.
Alors, vous parliez de sommet États-Unis, Afrique, France, Afrique... Et pas plus tard que la semaine dernière ou cette semaine, l'Ukraine est sortie de sa réserve, disant aussi préparer une stratégie pour dans ses relations avec l'Afrique et prépare un sommet Ukraine-Afrique. Parfois, on a envie de rire, mais il faut peut-être en pleurer. Raoul Kedi, vous avez souvent fait venir des chefs d'État du continent ici aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils sont accueillis et comment est-ce que vous avez quelques exemples des partenariats que cela ont pu nouer et comment se passent les choses?
Le problème souvent avec ces délégations qui viennent de l'Afrique, au-delà des chefs d'État, c'est que beaucoup arrivent ici aux États-Unis avec l'intention de faire les photos. J'appelle faire les photos, ça veut dire on va venir, on va signer un partenariat. On veut prendre de belles photos qu'on va mettre dans la presse pour dire au journal, il a été développé une signature d'un partenariat, Mais après ça, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien qui est fait. Vous voyez, il n'y a pratiquement rien qui est fait. Les chefs d'État qui arrivent ici, comme nombreux ceux dont on a pu recevoir, c'est un qui veut travailler, mais leur équipe qui ne continue pas. Un président, il va dire, oh, voilà mon ministre, il faudrait qu'on mette ceci en place. Mais malheureusement, quand ces Américains veulent arriver dans ces pays, ils se heurtent à la corruption, ils se heurtent au non-suivi, parce que des gens veulent manger, du coup la procédure devient lente. Je vais prendre un exemple. J'ai travaillé sur un partenariat avec un des ports d'un pays en Afrique dont je vais dire le nom, qui sont arrivés à Houston, qui ont signé avec le port de Houston. Tout a été mis en place, la ville, le port de Houston, qui est le 13e port dans le monde et le 2e dans les États-Unis, qui voulait vraiment développer avec l'Afrique. Et moi, au milieu, en tant qu'Africain et houstonien, j'étais la personne qui jouait de pont entre les deux. Voilà. Malheureusement, c'était en 2016, malheureusement, jusqu'aux yeux.
Ça n'a pas marché. Merci Raoul. Malheureusement, on est pris par le temps. On va faire un dernier tour de table. Très rapidement, Calvin Dark, que faire pour que les choses s'améliorent en quelques secondes?
Je crois que le premier pas, c'est de continuer le travail que le Biden administration est en train de faire, de préparer le terrain. Et aussi, pour le challenge de vraiment réaliser des progrès, d'encourager le secteur privé au niveau du gouvernement cet échange pour voilà. Que les gens peuvent imaginer et visualiser, comme on dit en anglais, les relations futures et prospères.
Voilà. Henri, le mot de la fin, que faut-il faire pour que ça change?
Il faut simplement qu'il y ait un changement de paradigme et de mentalité, que les Africains commencent d'abord par se respecter entre eux-mêmes pour créer effectivement les conditions d'une conscience collective qui leur permette de pouvoir s'imposer à l'international.
Raoul Kedi, en 10 secondes, qu'est-ce qu'il faut pour que ça change?
Comme il a dit, un changement de mentalité. Je pense que les Africains devaient apprendre à parler d'une seule voix et d'être plus concrets et voilà. D'avoir beaucoup plus de suivi.
Et on change donc nos mentalités. C'est le message, c'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, présentée par John Lyndon, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique. L'information, c'est tout à l'heure avec Mouamadou Oumfa.